Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission et comme nos auditeurs ont dû le remarquer, nous avons changé le jingle de départ et le jingle de fin. Voilà, donc on a un petit peu modifié cela. Alors peut-être quelques mots sur l'émission elle-même puisque nous fêtons aujourd'hui la 200e de cette émission. 200 émissions déjà sur à peu près presque 4 ans maintenant. Donc voilà. Et comme CFM nous a pas encore viré Virginie à coup de pied aux fesses, donc ça veut dire que bon, ça doit un peu tenir la route. Alors l'émission effectivement a été créée le 4 janvier 2011. Son nom m'avait été suggéré par Jean-Yves Bonnet. À l'origine, CFM m'avait proposé un enregistrement toutes les deux semaines. En fait, dès sa seconde édition, le Messager du Cheval a pris un rythme de croisière hebdomadaire avec deux diffusions par semaine, le mercredi et le samedi à 12h35. Et en même temps, cette émission est allée se faire diffuser sur CFM Villefranche de Rouergue, donc chaque mercredi et chaque samedi aussi. Voilà, donc on a élargi notre audience. En près de 4 ans d'existence, nous avons reçu plus d'une centaine de personnes fortement impliquées à divers titres dans le monde du cheval. Des artistes de spectacle équestre, des gardiens camarguais qui sont venus du reste de Camargue jusqu'à Rodez pour pouvoir participer à moins d'une demi-heure d'émission, ce qui est quand même extraordinaire. Une ostéopathe équine, des spécialistes de la reproduction équine, et alors là je crois que aussi bien Ken que Katharina savent de quoi nous parlons.
Ouais, bonjour à tous.
Un peu.
Une actrice et un acteur de théâtre et de cinéma qui a beaucoup participé aussi, des enseignants d'équitation, un charro franco-argentin, donc charro qui fait les charrerias, c'est-à-dire ces espèces d'acrobaties en arène sur des chevaux, et qui est aussi bon cavalier que chanteur, puisqu'il nous avait poussé la chansonnette. Voilà, donc il avait chanté en direct, c'était très très sympa. Et puis évidemment, des intervenants avec qui nous avons pu réaliser plus d'une centaine d'interviews. Donc nous avons aussi eu beaucoup de personnes qui sont venues parler de ce qu'ils connaissaient. Alors le Messager du Cheval a franchi un pas décisif quand il est devenu les messagers du cheval. Ils le doivent, Virginie, à ton arrivée en novembre 2014 dans l'émission. Tu as su la muscler en lui apportant une plus grande rigueur scientifique. En fait, tu avais trouvé un petit poulain en arrivant dans ce studio. Tu l'as sevré et lui a permis de devenir un cheval adulte, ce qu'il est aujourd'hui. Alors donc, je vais te laisser maintenant la parole, puisque je crois que le but du jeu, ça va être de beaucoup faire parler nos deux invités.
Oui, merci Michel. Bonjour à tous. Nous avons la joie, effectivement, pour cette spéciale, on peut dire, d'avoir avec nous donc des spécialistes du cheval. Et comme c'est ce qui nous réunit tous autour de cette table, c'est le cheval. Donc ma première question va être pour tous les deux, comment le cheval est entré dans leur vie ? Ken ?
Comme la plupart des choses dans ma vie, c'est grâce à une femme. Et je suis allé aux courses en Angleterre, c'est les courses de la campagne, pas comme Ascot ou Epsom et tout ça. Et j'étais dans le chapiteau de Champagne, j'ai rencontré une fille et voilà, c'était une cavalière. Et quelques jours plus tard, j'ai monté un cheval pour la première fois et je suis allé avec elle à la balle de la chasse, c'est français?
Au bal de la chasse,
voilà,
oui.
C'est dans un grand château dans le sud-est de l'Angleterre. Et voilà, mais on n'est pas ensemble, mais on reste amis. Et voilà, c'était quoi, il y a plus que 20 ans. J'ai monté quelques fois avant. Cette fois, j'étais vraiment mordu, entre guillemets, par les chevaux. Et quelques mois plus tard, j'ai acheté mon premier cheval. Et voilà. Probablement, c'est la plus chère femme de ma vie.
Katharina.
Pour moi, j'étais petite et ma mère, elle m'a posée sur un petit poney. Et là, j'ai changé mon point de vue de le monde. Après, j'ai commencé à monter à cheval, plus pour plaisir que pour compétition, puisqu'elle me faisait sentir bien. Libre. Et au final, j'ai choisi de faire vétérinaire. C'était en fait un rêve des petites filles. Petit à petit, ça devient réalité. Un jour, je me suis regardée à le miroir et j'ai dit, ben, je peux unir mes deux grandes passions. Et voilà, je suis tombée ici, à Rodez, à travailler avec des super étalons.
C'est fantastique. Et oui. Toi, Michel, hein?
Alors, comment je suis venu au cheval? Je dirais par la petite porte. Alors, figurez-vous que, jeune, j'avais eu de mauvaises expériences dans un club en Suisse. Bon, la façon d'éduquer les jeunes cavaliers était quand même assez... Il y avait quelque chose de très militaire. Hein. Voilà. Donc, on se faisait plutôt engueuler qu'autre chose. Et j'avais quitté le club quand un de mes instructeurs, un homme, un militaire, qui était en uniforme de militaire, m'a dit « Michel, tu ressembles à un crapaud sur une boîte d'allumettes ». J'ai dit « Ok, très bien, bye bye ». Et j'ai foutu le camp. Et à partir de là, il y a eu une grande coupure. J'ai compris que j'étais pas doué en équitation, ça je m'en suis aller faire de la randonnée ou des choses comme ça, mais j'étais pas doué en équitation. Et vraiment, j'ai fini par enlever de ma tête le cheval et l'équitation, mais vraiment enlever de ma tête. Et puis petit à petit, peut-être aussi grâce à Jean-Yves Bonnet, bien sûr, que nous saluons ici, j'ai un petit peu raccommodé avec l'équitation. Et malgré tout, même sur une des juments les plus adorables de Jean-Yves Bonnet, j'ai encore compris que je n'étais pas doué en équitation. Alors j'ai dit, comme je ne peux pas bien travailler avec les fesses, je vais travailler avec la langue, d'où l'émission.
Parmi les chevaux qui vous ont marqué dans la vie, est-ce qu'il y a un cheval particulier ou une race particulière dont vous sentez le plus proche?
Oh, probablement le premier cheval que j'ai acheté à l'époque, quelques mois après, j'ai rencontré cette fameuse fille. Grand Fred, il était un Allemand très grand et j'ai fait la chasse à cours avec lui, j'ai fait du CSE avec lui, du dressage, plein de choses. Et en fait, il est mort l'année dernière dans l'Aveyron parce qu'on l'a emmené de l'Angleterre il y a quelques années. Il était un très bon oncle pour tous les poulains. Il est mort dans les montagnes, mais à Moirazès, il y a...
À Moirazès, oui.
Oui, absolument, parce qu'on garde quelques chevaux là, dans les champs, chez Eric Lavial. Il est mort, c'est un truc très gentil, il avait 28 ans, quelque chose comme ça.
Ça commence à faire, oui.
Oui, absolument. Après lui, certainement, le premier étalon que j'ai acheté, Graffenstolz, le champion du monde de complet en 2004 avec Michael Young. Et naturellement, je peux pas oublier Canaan, le meilleur étalon du monde officiellement de CSE. Ça, c'est les trois chevaux qui ont vraiment marqué ma carrière et ma vie.
D'accord. Et juste un petit détail, oui. Est-ce que vous avez réussi à savoir, Ken, de quoi il était mort, ce cheval? Simplement parce qu'il était vieux?
Vieux, que vieux.
Tout simplement.
Oui, oui. Bon,
une belle vie. Hein.
Il avait une belle vie, et il n'y a pas de question
de ça. La vieillesse étant une maladie incurable.
Voilà. Et il se couchait
Et il ne s'est pas relevé.
Voilà.
D'accord.
C'est juste comme ça. C'était un peu triste, mais il a eu 28... belles années.
Bonnes années.
Et voilà, mais vraiment, ce cheval-là, il a oublié plus que j'ai appris. C'est français?
Oui.
C'est une expression anglaise.
Virginie, t'as une toute petite hésitation.
Katharina.
Pour moi, j'en ai deux pour l'instant. C'était mon premier cheval. Et c'était... la petite pause que je prenais tous les jours dedans les études. Et lui, c'était vraiment mon petit joie. Et après, malheureusement, avec l'université, avec l'école Veto, je ne suis pas réussi à l'avoir avec moi. Et le deuxième, c'est le premier poulain que j'ai fait naître toute seule. Et... lui, c'est effectivement le deuxième parce que je l'ai suivi après pour un mois et j'étais sa deuxième mère. Et du coup, c'était vraiment un truc de dingue. Je ne m'expectais pas une chose comme ça. Et lui, c'est mon deuxième pour l'instant.
Et donc, c'est un lien que vous avez pu nouer avec votre cheval très tôt, en fait.
Oui.
Puisqu'il est né, voilà. Donc,
c'est J'avais mon cheval, j'ai commencé à monter en fait de très petite, j'avais 8 ans, et après j'ai acheté mon premier cheval à 12 ans, 13 ans. On a travaillé un petit peu ensemble et enfin à 20 ans, je l'ai dû vous donner. C'était le plus horrible jour de ma vie, je crois. Mais il était bien. Il était mieux comme ça parce que j'avais plus de temps pour lui et du coup, au final, c'était mieux comme ça. Et après, petit à petit, il est arrivé ce petit deuxième que je ne m'expectais pas. Et j'attends parce que je veux un troisième, un quatrième, un cinquième.
Et voilà, et donc la famille s'est un peu agrandie alors finalement, légèrement.
Oui, légèrement, légèrement.
D'accord.
Pour l'instant, pas encore avec quelqu'un, un cheval qui va rester. Je suis en train d'attendre, il arrivera. Quand peut-être je vais avoir un petit peu plus de temps, puisque le travail aussi prend beaucoup de temps.
C'est ça, et un cheval, coup, c'est exigeant. Hein, ça.
Exactement, c'est très exigeant. Et du coup, j'arrive pas en fait à donner une stabilité. Je trouve difficile de trouver une stabilité pour moi-même. Et c'est difficile de trouver une stabilité pour quelqu'un d'autre, pour un animal. Quoi. C'est comme ça.
C'est pour ça effectivement que le lien donc, qui doit être créé très tôt doit être aussi poursuivi. Et c'est vrai qu'on voit certaines personnes qui ont un cheval comme ça dans un club, qui vont une fois par semaine, etc. Et le cheval s'embête. Hein.
Ça ressemble stupide, mais c'est assez juste un regard. C'est assez juste une caresse ou quelque chose pour créer un lien. Mais après, tout question des positions et des comportements. Ça passe vraiment, vraiment vite. Après, ça dépend beaucoup de la personne, mais ça passe très, très vite. Et ça dure longtemps.
Et ça dure longtemps.
Parce que j'arrive où mon cheval, après, il s'est rappelé très bien de moi. Très bien de moi.
Oui.
Du coup, je ne sais pas ce petit poulain, parce qu'il était en Nouvelle-Zélande. Du coup, c'est pas exactement ici. Mais mon cheval s'est rappelé très bien.
Oui, ça, j'ai eu cette expérience avec un cheval dont nous avions dû nous séparer, un petit cheval sans race précise. Mmh. Et un jour, mon épouse qui voyageait voit tout en haut d'un pré ce cheval et dit « Mais bon sang, il s'appelait Yankee, il ressemble à Yankee ». Et Yankee avait été habitué à un petit sifflet particulier. Donc elle sort de sa voiture, elle fait le petit sifflet, le cheval est arrivé, ça faisait à peu près 6 ou 7 ans qu'on s'en était séparés, est arrivé au triple galop en ronflant et voilà. Donc ça sont des expériences qui sont extraordinaires parce que bon, on pense toujours qu'un animal, comment dirais-je, le disque dur et incruste pas trop et on s'aperçoit qu'avec un cheval en particulier, mais pas rien qu'un cheval du reste, le souvenir est très 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 vivant.
Parce que ce que j'ai vu il y a quelques années, un cheval très très bien connu dans le monde de CSE, Baloubet de Rouet, un seul français, mais un des plus connus chevaux dans le monde. Il a gagné tout, la médaille d'or aux Jeux Olympiques, 3 fois la finale Coupe du Monde avec Rodrigo Pessoa. Mais j'étais son agent à l'époque, il y a 4 ou 5 ans. J'ai invité Baloubet avec son groom et son équipe d'un salon en Angleterre. Naturellement, c'était un vrai feu d'artifice dans ce salon. Mais le monsieur, le propriétaire, monsieur Coutinho, c'est un Portugais. Il a 90 ans, quelque chose comme ça. Il a des grosses sociétés, des grosses boîtes, aussi un petit Aristo aussi en Portugal. Il est venu avec son entourage et ce que j'ai vu, mais je n'oublierai jamais dans ma vie. Le cheval a vu le petit monsieur. Le monsieur, il a entré le box, mais le cheval, il a mis ses yeux sur le monsieur, sur son propriétaire, entre guillemets. Et il regardait le monsieur pour 30 minutes non-stop.
Ah oui.
Mais ça fait les frissons. J'ai parlé avec le groom, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, oui, Ken, ça, c'est vraiment comme ça. Entre le petit monsieur et Baloubet, c'est comme ça. Il y a un amour incroyable qui aurait. J'ai les frissons maintenant quand je parle de ça. Et mais vraiment, pour 30 minutes, le cheval a regardé le monsieur. Et mais l'amour entre les deux, c'est incroyable. Mais il y a deux filles qui ont commencé à pleurer. Mais c'était vraiment, vraiment fort. Et quelquefois, parce que je suis vraiment dans la filière un peu industrielle, c'est pas nécessairement mon attitude, mais c'est chaque jour, 28 chevaux, 18 étalons, tout ça. On oublie quelquefois pourquoi on est dans les chevaux. C'est pas que pour faire de l'argent, mais c'est les choses comme ça qui font les frissons. Ouais. C'est pour ça que c'est pas comme c'est pas une filière vraiment industrielle. On fabrique pas les voitures, les choses froides comme ça. Avec les chevaux, c'est impossible d'être à mon niveau dans l'industrie si on n'a pas un patient. Et c'est les choses comme avec Balubet et M. Coutinho qui font le patient énormément.
C'est vrai qu'il y a des histoires extraordinaires. Moi, je me souviens toujours de ce que me racontait Jean-Yves Bonnet, qui avait une jument qui a eu un gros problème de poulinage. Et il a...
C'était Flicka, je crois.
C'était Flicka, oui, oui. Et donc, il l'a aidé à pouliner, le poulain est né. Et à partir de là, la jument se retenait, à chaque poulain, de pouliner tant qu'il n'était pas là. Et quand il arrivait, la jument mettait bas.
Ça, c'est une attitude très spéciale des juments. Moi, j'avoue beaucoup de poulinage, et surtout les juments au premier poulinage ou les juments avec des poulinages très difficiles se van à retenir très bien qu'il est durant le poulinage. Et ça, c'est magnifique. Moi, chaque fois, j'en avoue deux, trois. Il était juste le premier poulinage, rien de spécial. Mais tu vois les yeux, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et après, se van à rappeler tout de suite que c'est toi, que tu l'as aidé, que tu étais là au moment où elle ne comprenait pas exactement ce qui était en train de passer. Du coup, ça c'est très... Je l'avoue moi aussi.
Et c'est vrai que Jean-Yves nous avait raconté cette histoire et il avait même, comment dirais-je, trait la jument, enfin bu la jument à la mamelle. Et effectivement, Flicka, c'était sa grande jument, quoi.
Ah oui,
et pourtant, il y a un proverbe français que je trouve particulièrement idiot. Ken va nous dire si c'est la même chose en Grande-Bretagne, en Irlande, pardon, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit?
En Angleterre aussi.
En Angleterre aussi. Alors, ce proverbe français, c'est la jument accouche quand ses maîtres sont allés manger.
Moi, je ne connaissais pas.
Ah, si. C'est-à-dire que, bon, la jument veut avoir la paix. Et quand les homo sapiens sont allés prendre leur déjeuner, elle se dépêche d'accoucher.
C'est bizarre parce que j'avais une poulinière en Normandie. Elle s'appelle Katharina aussi. elle est encore vivante. On avait cinq poulains de Katharina. On n'a jamais, jamais vu le poulinage. On avait les caméras partout. On avait les alarmes de poulinage. On avait tout. Le jour après, elle n'a pas pouliné, ça va. On a mis dans le champ. Elle a eu le poulain.
Ah oui.
L'alarme a sonné. On est allé. Non, on n'a pas fait. C'est une fausse alarme. On a rentré la maison. On a vu les caméras juste avant on recommence à dormir. Hop, elle a pouliné. Mais elle peut faire le poulinage toujours, toujours en secret. Seulement quand on n'est pas là.
Voilà.
Oui, c'est bizarre.
Ça. Donc,
c'est
ça
bizarre.
Ça dépend des personnalités. Hein,
mais,
voilà.
Mais elle était très, très particulière.
On va profiter de cet petit moment pour écouter Tom Waits, si je ne m'abuse, Michel.
C'est Tom Waits. Tu ne t'abuses pas, Virginie.
Black rider, out wails the bullet
Bien, ben après la voix de Mela Kas de Tom Waits, on va continuer et cette émission. Donc, on en était resté un petit peu à ces chevaux extraordinaires qui font des trucs extraordinaires, comme aller chercher des champignons dans la forêt ou des choses comme cela. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup avec les chevaux en général. C'est évidemment cette capacité de se souvenir, mais aussi, ce sont des chevaux, enfin des animaux qui sont remarquablement gentils. Et je me dis chaque fois que, quand je vois un cheval, comme des fois ça nous arrive sur les randonnées, où on voit le cheval qui est apeuré, etc., on se dit qu'il a fallu lui en faire beaucoup pour qu'il se mette dans une position de défense. C'est pas son naturel au cheval. Qu'en pensez-vous, Katharina?
Mais si on pense à le poids, à les dimensions du cheval, on arrive vite à avoir une réponse. Si le cheval ne veut pas faire quelque chose, c'est vite fait. Hein. Du coup, cette attitude si souple, c'est sûrement un point de force. Ça, malheureusement, c'est un côté négatif, parce que pour le moment où le débourrage vient fait, s'il n'est pas fait correctement, après, on a des cheveux avec beaucoup de soucis. On le voit beaucoup tous les jours. Et ça, c'est un abus de l'homme. C'est sur une gentillesse et sur un caractère vraiment exceptionnel de le cheval. Et moi, je reste toujours un petit peu choquée, incapable à tout le travail que j'ai fait sur les juments, sur les étalons, et à quel que j'arrive à faire. Sans avoir vraiment pas trop d'efforts. Après, on a des cas exceptionnels, des chevaux avec beaucoup de soucis, parce que clairement, c'est pas tout bien fait, pas tous les jours. Et du coup, comme ça se passe pour les personnes, hein, les animaux vont avoir des changements de caractère. Mais moi, je trouve ça impressionnant. Des animaux de 600-500 kilos, qui au final, le caractère d'un chien ou d'un chat.
Absolument. Avec les étalons, en fait, parce qu'on a toujours les commentaires sur nos étalons. Les gens, ils viennent pour visiter, les éleveurs, les gens qui ne sont pas éleveurs. Mais ils disent toujours, ils n'entendent rien, ils sont tous gentils, et voilà. Mais ma femme, Valie, elle a dit plusieurs fois, un étalon, il peut être comme vous voulez.
Oui, absolument.
C'est une attitude.
Si vous voudrez qu'il est bête, il peut être bête, il n'y a pas de question de ça. Et si vous voudrez qu'il est gentil, il est gentil. Chez nous, je pense que j'ai dit la dernière fois ici, c'est un club des gentilshommes. Ils sont tous comme ça. Les jeunes, ils apprennent le son de gentillesse
de leurs parents.
Par son voisin qui est à côté. Certainement, avec certains étalons qu'on a achetés, qui ont peut-être 17, 18 ans, ils ont fait des carrières énormes en CSI. Ils ont fait son tour du monde. Quelquefois, c'est un peu difficile, compliqué cette vie. Et on voit ces méthodes de défense. Mais le truc avec ça, tu fais pas les choses qui évoquent cette réaction. Donc, comme ça, c'est toujours là. C'est toujours disponible s'il veut, mais si vous l'embêtez pas, ça va, ils sont gentils. On a des très intelligents, on a des quelqu'un un petit peu stupide, mais sauf quand ils sont devant les obstacles, ils sont magnifiques avec ça. Et voilà, mais c'est intéressant que lui, Parker, qui a fait le plus dans sa carrière sportive, mais il est le plus calme.
Et alors justement, est-ce que le comportement de la mère de la jument n'est pas déterminant dans les premières semaines?
Bien sûr.
On dit souvent qu'une mère stressée fera un poulain stressé. C'est pas une légende, ça.
J'ai un exemple de ça. J'ai deux poulains de 4 ans chez nous. Ils sont frères et sœurs, nés dans la même année. C'était un transfert d'embryon. La même mère. La mère, elle est gentille, mais le receveuse, c'est une trotteuse, mais stressée comme un truc de dingue. Et le poulain, voilà.
Stressé.
Voilà. C'est... Mais éventuellement, après 2 ou 3 ans, après la receveuse est partie, il devient de plus en plus gentil et correct. Et voilà. Donc c'est, je sais pas le mot en français. En anglais, on a nature et nurture.
Il y a l'inné et l'acquis.
Voilà, c'est ça.
L'inné et l'acquis.
Et voilà. Naturellement, on a certains étalons qui font les poulains encore plus sensibles. Ça, c'est la différence. On dit toujours, on entend toujours, oui, ça, c'est un cheval, cet étalon-là, il fait les poulains que pour les professionnels. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être parce que les professionnels, ils savent bien de pousser par cet bouton-là. Et voilà. Peut-être ça, c'est la différence. Les amateurs, ils savent pas quel bouton à pousser, ou ne pousser pas. Et voilà. Mais c'est intéressant pour voir, ils sont nés la même année. Ensemble, voilà. On a pris 3 ans pour améliorer un petit peu son attitude.
Vous qui avez l'habitude de côtoyer des grands champions, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné. C'est quand même ces grands champions, ils ont un mental spécial. Je vois, par exemple, au niveau des courses de plat, ils aiment courir, quoi. Ils aiment être en tête, ils aiment gagner.
Ça c'est vraiment quelque chose, et c'est un truc que je regarde de plus en plus. Bon, on peut regarder les papiers, on peut dire oh oui ça c'est magnifique, on peut voir le modèle ça c'est magnifique. Mais en réalité, il y a quelques années, j'ai traduit le livre l'anniversaire de 20 ans pour la vente Elite Fence à Fontainebleau. Ils ont fait les interviews avec les cavaliers olympiques, les éleveurs énormes et tout ça, les acheteurs. Et en fait, ils ont discuté un petit peu la modèle, quelle lignée ils aiment beaucoup, tout ça. Mais en fait, la plupart, ils ont discuté les yeux et le mental. C'est ça qu'ils regardent. Et la modèle, en fait, statistiquement, il n'y a aucune relation entre la modèle et la performance à haut niveau. C'est plutôt génétique et aussi c'est la mentalité. Mon maréchal Ferrand, Alexis Ferrand, il est bien connu dans la région. Il m'a dit il y a 2 ans, Ken, j'ai vu dans le monde des chevaux de course qu'un cheval a eu un bâton qui est passé dans le pied pendant la course, mais son mentalité, non, je suis le gagnant, je vais gagner. Et on voit ça avec nos grands gagnants. C'est eux qui voudraient vraiment gagner. N'importe s'ils n'ont pas la modèle, n'importe s'ils n'ont pas la génétique, la lignée maternelle incroyable, le meilleur père du monde. C'est la mentalité. C'est ça qui compte.
C'est ça qui est déterminant. S'ils
ont le cœur. Mmh. On voit un petit...
La générosité, oui.
Voilà, petit Flipper Dell. C'est un étalon des Arrêts Nationaux. Il avait croix, mais il n'avait pas 160 centimètres. Il était plus petit que ça. Mais il avait le cœur d'un lion et une mentalité énorme. Et voilà, c'est plutôt ça qui est la différence entre les gagnants et pas les gagnants.
Ça me fait penser assez à Japlou, qui est personne n'en voulait parce qu'il était trop petit pour l'obstacle, parce qu'il n'a rien allé et qui a été un immense champion. Enfin, pratiquement tout ce qui était à gagner, il l'a gagné. Et puis haut la main en plus. Oui, enfin bon, et un caractère de petit.
C'est ça le caractère.
Oui, un caractère. Un caractère.
Non, on a un dans l'écurie Bakel de Talma qu'on a acheté l'année dernière. Il a 4 ans maintenant. Il n'a pas 160. Il n'a pas. Mais il a une mentalité. Il est déjà très, très professionnel. Il est vraiment assuré. Il voudrait gagner. On sait bien déjà, il sera un gagnant. Il n'y a pas de question de ça. Aussi, il a une belle modèle, une lignée maternelle incroyable. Très bon père aussi. Mais C'est la mentalité. Il va gagner.
Et alors justement, cette mentalité, est-ce qu'ils l'ont, Katharina, au point de départ, il doit bien en avoir un peu, etc. Mais est-ce que c'est pas non plus au fur et à mesure des épreuves que le cheval prend, enfin, comment dirais-je, prend cette envie de gagner, d'être devant, de franchir le poteau en premier?
Je crois que c'est un mix de les deux choses. Sûrement, c'est quelque chose de naturel qui vient d'adedans. On peut pas, c'est le cheval, il a peur, il est né comme ça, et il est né pour se cacher derrière à quelque chose. On le peut pas faire sortir gagnant.
D'accord.
Mais après, ça va très vite à détruire un super caractère. C'est ça, c'est exactement ça que je voulais dire avant. Ce sont des animaux très fragiles. Du coup, c'est un caractère gagnant, il est posé sur des mains qui sont pas compétentes. Et ça va tomber exactement sur ce que Ken il était en train de dire. On peut rien faire.
Oui,
on peut rien faire.
Oui.
Je crois que on a beaucoup d'exemples, hein, mais des chevaux avec des super caractères et peut-être des super possibilités sont très vite à être détruits d'un cavalier mauvaise ou d'un des expériences durant le débourrage très mauvaises.
Puis je crois qu'il y a aussi, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un entraîneur de course, il me parlait d'un cheval qui avait tout gagné cette année et qui, à cause d'un virus, n'avait pas été très performant pendant une course, mais son moral en a été extrêmement affecté et il lui a fallu beaucoup d'efforts parce que le cheval faisait une dépression de ne pas avoir gagné la course pour pouvoir le
relancer
le recon. Il a gagné après haut la main, mais il y a eu ce petit moment où le cheval a vraiment été déprimé.
C'est très facile.
Alors que c'est un grand champion, hein.
C'est très facile après tomber dans l'erreur. C'est clair que par contre, c'est cette clic, cette petite chose en plus, il n'y a pas. C'est difficile de la faire sortir de zéro. Ça, c'est mon opinion.
C'est ça, voilà. Donc, quand il n'y a pas ce que vous appelez le petit clic, bon, c'est mission impossible, en fait.
On ne peut pas le créer de zéro.
Voilà.
C'est quelque chose que ça doit être là.
Il faut que ça existe déjà.
Oui,
absolument, d'accord. Donc, il faut quand même pas décourager les gens qui ont des chevaux lymphatiques.
Non, absolument.
Surtout qu'il y a des chevaux lymphatiques, je suis bien placée pour en parler, puisque moi, je suis propriétaire d'un barbe, et les barbes sont des chevaux lymphatiques, qui s'économisent beaucoup de par leur génétique, hein, de vivre dans le désert. On sait, il fait froid, il fait chaud, il y a de très grandes amplitudes.
Et il n'y a pas à manger.
Il n'y a pas non plus toujours à manger ni à boire. Et c'est vrai que quand on les voit, moi, la première fois que j'étais au Maroc et que j'ai vu une Fantasia, j'étais stupéfaite. Moi, j'étais tellement heureuse de voir des barbes. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est des gros veaux. Ils étaient là, complètement immobiles, au soleil, la lèvre ballante, le postérieur remonté. Je me suis dit, mon Dieu. Mais alors après, quand je les ai vus, et alors là, c'était extraordinaire parce qu'on parlait des entiers. Des rangées, 12 cavaliers sur des entiers, 30 lignes d'entiers les uns derrière les autres qui ne bougeaient pas. Et quand ils partaient, ça n'était plus lymphatique.
Là, ça a changé.
C'était un petit peu comme Oulane, en fait, hein, que tu trouves un petit peu mollasson. Quand on est allé avec Jean-Yves le récupérer dans la montagne, il n'était pas mollasson, le coquin, hein, je veux dire.
Non, mais ça, par contre, ça, moi, je l'appelle aussi le clic, parce que je peux faire facilement référiment à les étalons que je vois tous les jours. Moi, je les manipule, ce sont des chiens, ils sont fantastiques, mais c'est le moment où c'est nécessaire. Et c'est là que ça sort. Si ça ne sort pas, en ce moment, ça ne sortira jamais.
Ouais. Voilà,
ça ne sortira jamais. Ce n'est pas une question de comportement tous les jours, parce que ce n'est pas tout ce qu'on fait tous les jours que ça soit. Ça se voit au moment de la nécessité. C'est au moment de la nécessité, le cheval, il a quelque chose, il le sort. Et ça se voit.
D'accord. Et donc, c'est mission impossible. Enfin, on a beau faire ce qu'on veut, c'est...
Mais c'est comme avec les humains. Hein. Tout le monde n'est pas performant pour devenir un grand champion.
On n'est pas tout champion, on n'est pas tout gagnant, on n'est pas tout lion.
Non, mais ce qui est important, ce que vous dites, Katharina, c'est qu'il y a quand même cet effet mental qui est très fort, quoi. Je veux dire, ça, c'est... Et dans les deux sens. Hein. On réussit, c'est parfait. On loupe, c'est la catastrophe.
Exactement.
Le cheval ferme la porte. porte et dit...
Et c'est fini.
C'est fini, voilà, c'est cela, oui.
C'est ça que je trouve très fascinant, parce que réussir à comprendre le limite et réussir à travailler sur cette limite, c'est très intéressant. Parce que pour fermer la porte d'un cheval, ça passe très vite, et pour la réouvrir, waouh, ça passe longtemps, ben.
Et des fois même, oui, c'est, des fois même, c'est,
elle reste
bloquée.
Ça reste fermé.
Oui, c'est cela, oui.
Et je pense, Ken, la difficulté aussi, parce qu'on peut avoir des étalons, de très, très bons étalons, qui réussissent très bien en sport, mais qui ne vont pas forcément être de bons reproducteurs.
Ah oui, ça arrive.
Ça, c'est tout le problème de. Il n'y a pas de recette, en fait. Hein.
Oui, non, mais plutôt, c'est. On essaie toujours dans le monde de l'élevage des chevaux de CSE pour concentrer les gènes. Il y a du line breeding, un peu d'inbreeding. J'ai certains étalons où on voit 3 ou 4 lignées maternelles très très fortes. Ils sont plutôt toujours les gagnants. Aussi, ça dépend à quel niveau on dit gagnant. Si c'est un cheval qui saute très très bien à 1m45, on a par exemple en France Contendro chez Groupe France Élevage. Il a jamais sauté en concours plus haut que 135. Jamais. Jamais dans sa vie. Mais il a sailli 300, 400, 500 juments par an. En Allemagne, aussi en France maintenant. Et parce que sa ligne maternelle, c'est super forte. Son père, c'est Contender, un des meilleurs étalons du monde. Mais c'est la concentration des gènes performants, c'est ça?
Oui.
Performants. Et voilà, c'est ça qu'on essaie toujours pour faire. Joris de Brabant, chez Stal de Muse, en Belgique, pour moi, un des meilleurs, peut-être le meilleur éleveur des chevaux de sport dans le monde, c'est ça ce qu'il fait. Il a 2 lignées maternelles, une celle française et l'autre c'est belge. Mais il a vraiment vraiment travaillé sur ces 2 lignées maternelles. Mais après il a ajouté les étalons qui ont aussi une ligne maternelle très très forte et voilà. D'accord. On voit les résultats. Mais il n'y a pas vraiment de formule.
Non, heureusement d'ailleurs.
Et voilà, mais c'est pas une question qu'on lance les dés chaque fois. On essaie toujours. Mais ce que j'ai vu aussi, parce que pendant les derniers 2 ans, je suis vraiment un acheteur des jeunes chevaux, les 3 ans, les 4 ans, pour avancer un petit peu la catalogue, parce qu'on peut pas attendre 4 ans toujours. On fait nous-mêmes très peu de l'élevage, 2-3 juments par an, pas plus que ça, parce qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas le temps, et on voudrait vraiment avancer. On préfère d'acheter les jeunes étalons des éleveurs locaux ou partout en France et on est un petit peu applaudi pour notre police. Pendant mes voyages partout dans le monde, plutôt en Europe, pour chercher les jeunes étalons, j'ai vu de plus en plus que la qualité est bien augmentée, bien mieux depuis il y a 10 ans, 15 ans. Maintenant, il y a très peu des mauvais chevaux.
Et alors, est-ce que ça ne vient pas aussi des énormes progrès de la génétique qui permettent de beaucoup mieux cibler les voilà, c'est cela.
Ah, aussi, mais c'est,
parce qu'avant c'était tout à fait empirique. Bon, on avait un cheval qui courait vite, une jument qui courait vite, et puis on se disait, boum, ça va être jackpot.
Mais dans le monde des chevaux de course, c'était plus facile parce que vous avez toujours eu Weatherbys et tout ça qui ont noté tous les résultats, donc c'était facile. Tous les juments ont quand on écrit en noir, mais vraiment les grandes lettres, et voilà. Mais dans le monde des chevaux de sport, oui, c'était noté, les grands studbooks, ils ont noté tous les résultats et tout ça. Mais vraiment avec, grâce à l'internet, en fait. Les éleveurs sont de plus en plus éduqués, quelle ligne maternelle qui marche bien avec ça, ou ça, ou ça. Alors, comme j'étais en train de pour dire, j'ai vu que maintenant, il y a très peu des mauvais chevaux qui sont élevés exprès pour le CSE. Oui, très, très peu mauvais. Très, très peu. J'ai vu 1 ou 2 sur 100. Que ça.
Et donc, alors,
maintenant, c'est facile d'acheter des très bons.
Mais alors, est-ce qu'il peut arriver, malgré tous ces soins, cette connaissance de la génétique, etc., qu'on prenne une jument et un cheval qui sont normalement extraordinaires et puis que ça foire, que ça fasse un...
Oui.
Petit cheval.
Ça arrive, c'est rare.
Oui, la question, c'était est-ce que c'est possible pour prendre une jument extraordinaire, un étalon extraordinaire et le résultat, c'est nul?
Oui.
Voilà. De plus en plus, non.
Voilà, c'est cela.
À l'époque, voilà. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, oui, absolument. Mais on prend par exemple Ratina Z, une des meilleures juments dans le sport. Elle était croisée toujours avec les meilleurs. Cartago, Dola de la Pierre, Diamant, Cornette Oblensky, comme il faut, toujours. Et en fait, comme il faut, c'est un exemple, c'est son fils. Et en fait, on peut dire qu'ils sont pas les meilleurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça va, mais il y a quelques millions qui n'ont pas gagné ça. Mais au moins, ils ont tous sauté 1m45, 1m50, au moins. Mais ça, c'est un bon cheval. Ah, c'est oui. Un très. Si tout le monde, si tous les éleveurs ont les chevaux comme ça, ils sont tous contents. Et ils sont tous milliardaires aussi. Mais, c'est pas souvent maintenant que tu vois une super jument de sport avec une super lignée maternelle croisée avec un saïp, un très bon étalon, et le résultat est nul. C'est pas souvent qu'on le voit. En pourcentage,
en fait, c'est devenu exceptionnel, ce oui. qui était quand même un peu, pas la loi, mais oui. en fait, ce qui était quand même beaucoup plus fréquent par le
ça
passé.
Demande ça dépend sur les fesses de dans la selle. Je peux dire ça?
C'est vraiment ça.
Les mains sur les rênes, je suis désolé. Mais voilà, parce que...
Non, mais on peut avoir les mains et les fesses aussi.
Oui, voilà. Pas les fesses sur les rênes, j'espère. Mais c'est plutôt ça. Mais, il faut avoir un très, très bon cheval, mais aussi un très bon cavalier.
Ouais,
voilà. On voit chaque week-end sur Equidia le résultat de ça. Les meilleurs cavaliers et cavalières avec les meilleurs chevaux. On voit le résultat.
C'est vrai que les fesses sur les rênes, c'est quand le cheval fait un pile devant l'obstacle.
Là, c'est bien compliqué.
J'ai eu ça
un deux fois, certainement.
Oui. Oui, puis je crois que c'est valable dans toutes les disciplines, parce que c'est pareil en course, c'est pareil en endurance.
Oui,
il faut pouvoir sentir le cheval, avoir... Moi, je sais que, bon, je suis un peu spécialiste des courses, donc j'ai souvent interrogé des jockeys. C'est ce qui me frappe toujours, de me dire que le jockey, il a 3 minutes pour apprendre à avoir des informations sur le cheval au rond de présentation. Mmh. Et après, il se retrouve dessus et il doit mener sa course. Et d'ailleurs, quand on parle de jockey, on parle de pilote au niveau des courses. Oui. Hein, c'est le pilote. Oui. Et on a vraiment là ce sens incroyable qui, notamment chez les grands jockeys, comme je pense à Olivier Pellier, qui sont capables d'avoir ce ressenti du cheval. Oui. Oui. Et de l'amener à franchir le poteau d'arrivée le premier.
Donc, ça veut dire que le jockey ne connaît pas forcément son cheval avant la
course.
Ah
non, il ne le connaît pas. Ah oui. La plupart du temps, il ne le connaît pas. Alors, certains grands jockeys vont monter le même cheval plusieurs fois dans la saison parce qu'ils ont un contrat avec l'écurie. Mais même en montant ces grands cracks, ça ne suffit pas pour le connaître. Après, ils vous disent... que le cheval le reconnaît, on parlait justement de reconnaître et qu'il a confiance plus ou moins en lui. Mais la plupart du temps, ils ne les connaissent pas. Parce que 3 minutes, c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant plutôt pour et ce qui fait que les jockeys sont des grands sportifs, ce qu'on oublie.
En CSE et en dressage, les sports des Jeux Olympiques. C'est vrai que ça prend du temps pour faire un vrai couple. J'ai acheté ce week-end un cheval moitié-moitié avec Michael Whittaker, le grand britannique. Et j'ai demandé à quel moment tu vas sortir en concours. Et oh, ça va prendre 2 mois. Ça va prendre 2 mois. Et il a acheté un cheval pour beaucoup d'argent en Normandie le week-end dernier. Valmy de la Lande, je peux pas dire le prix, mais c'était son propre argent, donc il aime beaucoup ce cheval, il a dit que c'est le meilleur cheval qu'il a monté dans sa vie. Ça, c'est quelque chose, le cheval a 6 ans, que 6 ans. Et bon, ça va prendre 2-3 mois pour faire un couple, et ils vont sortir en janvier, février, quelque chose comme ça. Et ça prend du temps. Aussi, dans les trois sports des Jeux Olympiques, c'est vrai que la différence entre le dressage et le CSE et le troisième sport, le complet, c'est que en CSE et en dressage, le cheval est le plus important. Mmh. Vraiment le plus important. Mais en complet, il est moins important. C'est le cavalier qui est le plus important. Franchement, les grands cavaliers de complet comme Clayton Fredericks, Will Fox Pitt, j'espère qu'il est en bonne santé maintenant. Franchement, il peut monter un Labrador sur un 2 étoiles. Ils ont tous dit ça. Et voilà. Mais à 3 étoiles et 4 étoiles, ça c'est un peu différent. On a besoin d'un cheval encore plus bon, naturellement. Mais c'est plutôt le cavalier dans cette coupe qui est le plus important. C'est un petit peu pour ça, malheureusement, que la valeur des chevaux de complet, c'est pas énorme.
Non, oui.
On voit presque jamais, Par exemple, le prix de ce, cette fameuse 6 ans que Michael Whitaker a acheté les 2 semaines en Normandie, on voit ce prix-là virtuellement jamais. Peut-être une fois dans 10 ans, dans le monde complet. Mais en CSE, c'est, ce prix-là, c'est chaque jour.
C'est chaque jour, voilà,
oui,
c'est
oui.
Cela. Oui,
et chaque jour, c'est incroyable. Et tout, comme ça, on voit la différence. Mais le cheval, il est très important, n'importe quel sport. Mais en CSE, en dressage, le cheval, il est vraiment plus important que le cavalier. Il faut avoir un bon cavalier, comme on dit déjà. Mais le cheval est de plus en plus important. C'est pour ça qu'ils sont super chers maintenant. Le prix des chevaux de CSE et de dressage maintenant, c'est incroyable. Mais ça monte virtuellement chaque jour. On entend souvent les prix 600, 700, 800 000 pour les 6 ans et 1 million pour un 7 ans. C'est presque chaque semaine.
Et alors justement, est-ce qu'on est capable, quand on voit des prix comme ça, enfin c'est un énorme investissement bien sûr, est-ce qu'on est capable de pouvoir anticiper ce que sera la durée de sportive d'un cheval, évidemment en éliminant tous les accidents qui peuvent arriver, etc. Est-ce que c'est quelque chose, parce que quand on investit autant d'argent, on aimerait un peu savoir combien de temps ça va durer, quoi.
Ça c'est une question pour le veto.
Ça, c'est une question pour le béton.
Ça, c'est une question pour un magicien, parce que c'est un petit peu compliqué.
Vous êtes magicien.
Mais en réalité, c'est très difficile. C'est anche tous les investissements qui sont faits sur le monde du cheval, avec ces grandes sommes d'argent, c'est un petit peu poser de l'argent et de la confiance sur quelque chose de pas sûr. Parce que surtout quand on parle des cheveux si petits, il vient compliqué dire oui, vous allez dépenser votre argent et après ça va durer 20 années. C'est compliqué de le dire. Mis à part, comme vous avez dit, tous les accidents. Que ça, en fait, c'est. Je suis désolée de le dire, mais le cheval, il est l'animal, je pense, le plus fragile en question de sur santé de tous les autres. Peut-être il est arrivé aussi à aujourd'hui. Parce que l'homme, il s'est pris un soin de lui, parce qu'il est animal très, il est un animal pour certaines fois très fragile. Et du coup, on voit juste des simples coliques, que ça peut devenir la raison pour le cheval
d'un décès, oui.
Ou une fracture d'un arthre, que ça vient malheureusement souvent. C'est pas mortal, mais c'est la fin de la carrière sportive.
En fait, c'est un sujet qu'on discute pas souvent dans le monde des chevaux de CSE et de dressage. Mais on a discuté de Baloubet déjà. Mais sa carrière sportive, à 19 ans, il a continué à sauter dans les grands prix, mais les vrais grands prix. Même un cheval qui s'appelle Briard, c'est un cheval de dressage qui était dans mes écuries il y a 3 ans. Il a fait 3 Jeux olympiques consécutifs en dressage. Mais le dressage à ce niveau-là, c'est super dur sur les tendances, sur tout. Mais le cheval, il a fait 3 fois, effectivement. Un truc de dingue. Mais on discute pas assez. On discute la modèle, on discute ça. Mais en fait, le durée de la carrière, je pense que c'est génétique.
Ça peut être génétique. Ça peut être sûrement sur la côté des tendons et de l'articulation. En aide génétique, ça vient. Parce que
donc
c'est
on a déjà une petite idée en
exactement.
Fait.
Exactement, on peut avoir une petite idée, surtout en regardant toutes les maladies que ça peut passer dans le côté génétique, et sûrement voir si on a une ligne sportive derrière notre cheval, comme c'est souvent pour les chevaux très importants. On peut avoir une idée, on peut à peu près penser, ok, notre cheval, il arrivera d'avoir 10 ans de carrière sportive sans avoir beaucoup de soucis.
Oui, ah, c'est toujours un pari quand
c'est
même.
C'est la gestion
oui,
du
mais
cheval.
C'est aussi la gestion de la carrière.
C'est la gestion,
c'est ça qui rentre aussi en compte.
En fait, les anciens propriétaires de Canaan, la famille Eckhart, Alexandrine et son mari Michel, en fait, ils ne commencent pas à sauter en concours, ses cheveux, ils commencent à 6 ans. Mais nous, on commence à 4 ans. Pour nous, c'est important pour les jeunes étalons, pour voir s'ils sont assez bons, pour les éleveurs, pour les voir en concours. Mais les écarts, ils se moquent de ça. Ils commencent à 6 ans. Comme ça, sûrement, Parce que c'est à peu près 6 ans, 7 ans, la maturité, c'est français,
ouais, oui.
D'un cheval. Et voilà, donc, on met un peu de stress sur les os et sur les tendons à 4 ans et à 5 ans. Même en course, mais ça commence à 2 ans.
Oui,
mais ils sont élevés exprès. Oui. Mais ils ont choisi pendant 3 siècles les lignées.
Le sélectionné,
qui, voilà,
etc.
C'est exactement ça. Même mais à 2 ans, c'est...
C'est important, oui.
Ouais.
Alors justement, la maturité, on va peut-être préciser ce que c'est. Est-ce que c'est quand un cheval, tous ses cartilages se sont solidifiés, sont devenus des os, ou est-ce que ça...
Pour maturité, ça entend le complot, quand le cheval, il est arrivé à être complètement formé. Du coup, pas seul à niveau de cartilage des os, mais anche à niveau hormonal, quand c'est en fait la fin... de le changement de le corps de l'animal. Du coup, après, l'animal, il grandit plus, il va plus à changer des caractéristiques phénotypiques. Et ça reste simplement, c'est l'animal adulte. C'est clair, on va avoir des changements, ça c'est normal, comme pour nous, ça passe le temps, et du coup, l'animal, ça change. Mais les changements classiques des structures internes sont terminées et les changements hormonaux sont terminés.
Alors, on discute son Galoubé un petit peu. N'oubliez pas que son père, Galoubé A, sa mère était une trotteuse française, Viti. Et je suis sûr qu'il y a un petit... parce que les trotteurs, ils sont super durs.
Ouais, ils sont très endurants.
Et peut-être c'est ça qui est... On peut toujours voir, spécialement avec les chevaux de sport, qui ont le pur sang pas loin. Si c'est dans la deuxième ou troisième génération, c'est pour moi, c'est sûr que ça va améliorer, je sais pas si c'est
améliorer,
bon,
ouais.
Ça va allonger la carrière parce que ces tendances sont mieux,
plus costauds, plus
voilà, oui, une résistance
plus
supérieure.
Ouais.
Exactement, je suis sûr qu'il y a un petit peu de ça dedans, parce que ça c'est le truc avec les warm blood, les selles français, les Holsteiner, tout ça. Ça, c'est plutôt les races modernes, depuis 50, 60, 70, 80 ans. Mais le pur sang, c'est depuis 3 siècles.
Oui, tout à fait, absolument. Oui.
Et quelquefois, quand on trouve pourquoi ça, quand je vois les pur sang qui sont dans les gènes, ah, c'est, oui, c'est le mélange maintenant, le mélange moderne, on ne sait pas vraiment. Où on va avec ça, mais c'est sûr qu'on a besoin d'ajouter chaque 3 générations un peu de pur sang.
C'est cela, d'accord. Donc pour c'est cela pour réalimenter un petit peu le.
Sinon, on revient aux chevaux de trait.
Disons que.
Comme en Holstein.
Voilà, tout à fait. Ouais. Un concours hippique sera tranquille, on aura le temps de tout voir.
Ah oui, oui, absolument. On arrête, on mange un peu d'herbe.
Oui, voilà. Après.
Éventuellement.
On fume un clope et voilà.
Éventuellement.
Ça peut faire les Jeux Olympiques très intéressants.
Voilà, c'est ça.
Mais je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Donc, un grand, grand merci à Ken et à Katerina d'être venus nous partager avec nous leur passion pour le cheval et toutes leurs connaissances sur les différents domaines que nous avons pu aborder aujourd'hui.
Alors donc, bien merci, à mon tour de vous remercier, bien sûr, Katharina, Ken. Et puis notre petite émission, après cet anniversaire, va continuer.
On va vous retrouver, j'espère aussi.
Voilà. Ah ben oui, on ira vous chercher.
voilà.
En tout
on
cas...
On est facile à trouver.
Voilà, pour nos auditeurs, un grand merci de nous rester fidèles, bien évidemment. Et puis, donc, à la semaine prochaine. Et un grand bravo à tous les chevaux. Ciao, ciao.